France Inter.
France Inter, le 18-20 continue, il est 19h. Hélène Philippe pour le journal. Bonsoir Hélène.
Bonsoir à tous. Encore une cyberattaque massive, 43 millions de Français potentiellement concernés, ceux qui sont ou ont été inscrits à France Travail et Expo Emploi ces 20 dernières années. On vous explique dans un instant. Le gouvernement va saisir la justice après la mobilisation pro-palestinienne d'hier à Sciences Po interdisant la présence d'étudiants juifs. Gabriel Attal, le Premier ministre, l'a annoncé en se rendant sur place ce soir. L'actualité, c'est encore l'intelligence artificielle. En fait, elle pourrait créer de l'emploi. Le poids des centrales d'achat européennes, près de la moitié des produits vendus en France. Retenir la notion de consentement dans la définition du viol, la promesse discrète d'Emmanuel Macron à une association féministe. On a aussi suivi l'audition de Vincent Bolloré devant la commission d'enquête parlementaire sur l'attribution des fréquences et la remise d'un rapport sur les adoptions internationales. Les familles attendaient plus. Juste après ce journal, le débat sur le soutien à l'Ukraine. Vos questions 01 45 24 7000.
France Inter.
L'administration française continue donc d'être harcelée par des hackers. Cette fois, c'est France Travail, ex-Pôle emploi, qui est victime d'une cyberattaque massive. Bonsoir Maxime Debs.
Bonsoir.
Et quand je dis massive, ce sont 43 millions de Français qui sont potentiellement concernés.
Oui, 43 millions, vous me direz, ça fait beaucoup. C'est surtout que France Travail, au-delà des chômeurs inscrits actuellement, conserve dans ses fichiers les données des personnes inscrites ces 20 dernières années. En d'autres termes, si vous étiez chômeur, par exemple, en 2005 ou 2012, vos informations personnelles sont peut-être dans la nature ce soir. Alors pas toutes, aucune donnée bancaire n'a fuité, insiste France Travail, mais quand même des noms, des téléphones, des adresses mail et plus préoccupant, des numéros de sécu.
Alors en fait, qu'est-ce qui s'est passé?
Eh bien, tout est parti de l'usurpation d'identité d'un conseiller Cap Emploi, en fait, un service mis à disposition des personnes handicapées qui collaborent étroitement avec France Travail. L'opérateur public a très vite constaté des requêtes suspectes, pris les dispositions nécessaires à partir de là pour tout verrouillé. D'accord, mais le mal est fait, répond ce soir Ludovic Louis, délégué syndical FSU à France Travail, joint par nos confrères de France Info.
Ce qui nous dérange le plus dans cette affaire, c'est qu'on a alerté plusieurs fois la direction générale de l'externalisation de la plupart des informations qu'on possède dans le cadre de nos fichiers de données sur les demandeurs, qu'on nous avait garanti qu'il y aurait une sorte de coffre-fort informatique pour que rien ne filtre et que tout soit super protégé. Visiblement, le coffre-fort doit avoir quelques fuites pour que ça puisse produire à ce moment-là, quoi.
Et alors, faut rappeler que Pôle emploi a déjà subi une fuite de données en août dernier, moins importante, mais qui concernait 10 millions de personnes. Tout de même, quelle est la marche à suivre, Maxime?
Écoutez, le parquet de Paris a ouvert une enquête et mis en place un système de plainte simplifié pour les personnes concernées. Des mails sont aussi envoyés. France Travail qui met en garde contre les courriels et appels frauduleux que vous pourriez recevoir ces prochains jours. Pour rappel, France Travail ne vous demandera jamais de communiquer ni mot de passe, ni coordonnées bancaires par mail ou par téléphone.
Et cette cyberattaque arrive quelques semaines seulement après celle tout aussi massive contre Viamedis et Almeris, deux opérateurs de tiers payants. 33 millions de numéros de sécurité sociale avaient été exposés.
La polémique prend de l'ampleur ce soir sur cette mobilisation à Sciences Po hier matin.
Une centaine d'étudiants pro-palestiniens qui ont occupé l'amphithéâtre principal de la grande école, empêché la tenue d'un cours magistral et l'entrée d'une étudiante de l'Union des étudiants juifs de France. Elle dit avoir été traitée de sioniste. Emmanuel Macron dénonce des propos parfaitement intolérables. Bonsoir Marie Mollet.
Bonsoir.
Et le Premier ministre s'est donc rendu sur place ce soir.
Oui, Gabriel Attal qui a fait une apparition éclair cet après-midi. 15 minutes au conseil d'administration de Sciences Po pour une démonstration de fermeté sur place. Ce qu'il s'est passé est particulièrement grave, a-t-il dit d'après des participants. Les débats, les mobilisations ne peuvent aller à l'encontre de nos principes républicains. Avant de poursuivre, les Français s'interrogent sur une forme de pente, de dérive, dit-il, liée à une minorité agissante et dangereuse à Sciences Po. Il faut inverser cette pente. Un coup de semonce, donc, et le Premier ministre qui annonce qu'il déclenche l'article 40 de la procédure pénale, c'est-à-dire qu'il saisit le procureur pour, dit-il, contribuer à l'enquête déjà en cours. Il annonce également la nomination d'un administrateur provisoire chargé de changer de logique, d'après Matignon. Gabriel Attal, qui emboîte donc le pas au président de la République, qui avait en conseil des ministres ce matin dénoncé des propos inqualifiables et parfaitement intolérables prononcés lors de cette manifestation dans les murs de Sciences Po.
Explication Marie Mollet. Alors que dans la bande de Gaza, un entrepôt de l'UNRWA, l'agence de l'ONU pour les réfugiés,
réfugiés palestiniens a été la cible d'une frappe. Aujourd'hui, l'un de ses employés au moins est mort. L'enclave, toujours dans l'attente du premier bateau humanitaire, le navire parti hier de Chypre, est encore loin des côtes. Et ce sera loin de suffire, les ONG le disent déjà, comme l'organisation française Solidarité Internationale. Bonsoir Étienne Monin.
Bonsoir.
Vous avez rencontré l'une de ces équipes qui revient d'une mission à Rafah.
Oui, c'est une grosse structure. Elle intervient principalement sur l'eau et l'assainissement. Mais pour cette ONG, Gaza est une découverte. Ça n'est pas un terrain habituel d'intervention. Philippe Bonnet, le directeur des urgences, a donc pu mesurer l'ampleur de la débrouille pour les Gazaouis. Ils doivent par exemple fouiller dans les décombres des immeubles pour trouver du matériel de construction à cause des restrictions qui sont imposées à l'entrée par les Israéliens.
On sera contraint à travailler de cette manière, hein, un espèce de système D, jusqu'à ce que les camions puissent rentrer en masse, hein, avec tout le matériel qui attend parfois depuis longtemps au poste frontière.
Ces camions qui font figure de solution, ils sont nombreux à venir d'Égypte ou de Jordanie, mais le contrôle de sécurité imposé par Israël fait office de goulot d'étranglement. Il entre parfois 4 fois moins de camions aujourd'hui qu'avant la guerre, et les nouvelles routes de l'humanitaire par la mer ou le ciel ne sont pas dimensionnées pour faire face, dit Philippe Bonnet.
Les bateaux et les avions, nous on le voit plus comme un outil politique des États pour montrer leur positionnement par rapport à cette crise, mais ce n'est pas ces éléments qui vont apporter aux Gazaouis l'aide dont ils ont besoin. Ce qui va permettre d'aider les Palestiniens victimes du conflit, ça va vraiment être l'entrée de ces milliers de camions avec tous les biens essentiels dont les gens ont besoin.
Hier, tout de même, une nouvelle route a été testée par les Israéliens pour faire entrer les camions de l'ONU directement au nord. C'est la partie la plus critique de l'enclave, dans laquelle au moins 10 enfants sont morts, victimes du manque de nourriture et du manque d'eau.
Merci beaucoup Étienne Monin. Après l'agression d'un opposant russe hier dans la capitale lituanienne, Leonid Volkov, l'ancien porte-parole d'Alexei Navalny, attaqué au marteau devant chez lui, le président de la Lituanie accuse le Kremlin. « Personne n'a peur de vous ici », a-t-il dit depuis Paris où il est aujourd'hui. Les États-Unis font un pas décisif vers l'interdiction de TikTok sur son sol. La Chambre des représentants vient de voter pour bannir l'application si elle ne coupe pas ses liens avec la Chine. Tandis qu'au niveau européen, c'est l'intelligence artificielle que les eurodéputés veulent réguler. Ils viennent de voter une loi pionnière en gardant l'idée qu'il ne faut pas se laisser distancer. C'est d'ailleurs pour cela qu'un comité d'experts recommande un plan massif en France. 5 milliards d'euros d'investissement sur un an. Bonsoir Xavier Demani.
Bonsoir.
D'autant qu'il juge, et ce n'est pas ce qu'on pense toujours, que l'IA peut être créatrice d'emplois.
Oui, même si certains métiers risquent bel et bien de disparaître ou de subir des transformations massives, même si certaines entreprises, particulièrement dans l'administratif ou le marketing, vont connaître des réductions nettes, l'IA devrait avoir un impact global positif sur l'emploi, écrivent ces experts. Ce sont les tâches qui vont changer, permettant notamment l'automatisation des plus ingrates ou la création de nouveaux métiers, en partie inconnus à ce jour. Le rapport s'appuie sur l'observation par l'INSEE de plusieurs centaines d'entreprises ayant adopté ces dernières années des systèmes d'IA et qui ont effectivement développé de nouvelles compétences, l'effet productivité étant plus important que l'effet d'éviction, comprenez la suppression de certains postes. Les experts insistent par ailleurs sur l'importance de la formation pour éviter d'être dépassé et du dialogue social dans les entreprises pour accompagner les changements. En revanche, les conséquences de l'intelligence artificielle générative, popularisée avec l'arrivée de ChatGPT il y a 1 an et demi, sont là presque inconnues, concèdent les auteurs. Difficile d'avoir le recul nécessaire, disent-ils, tout en prédisant quand même une issue économique plutôt positive.
Voilà un article à retrouver sur le site de France Inter. Et voici un chiffre qui risque de remettre les centrales d'achat européennes sur le grill, ces grosses structures utilisées par la grande distribution pour acheter au prix le plus bas possible, au risque de contourner la loi française. Près de la moitié des produits vendus en France sont négociés par ces centrales d'achat à l'étranger, entre 40 et 50% selon un rapport parlementaire rendu public aujourd'hui. Bonsoir Fabien Cazot.
Bonsoir.
C'est un poids considérable.
Oui, et c'est la première fois que cette estimation est faite, un an quasiment après l'entrée en vigueur de la loi d'escrozaille sur les négociations commerciales dans l'agroalimentaire. Cette loi en faveur des producteurs et des industriels soumet à la réglementation française les négociations avec des centrales d'achat européennes dès lors que les produits concernés sont destinés au marché français. Les distributeurs revendiquent la liberté contractuelle, mais l'auteur de la loi, Frédéric Descrozaille, pointe des risques de contournement juridique.
cette liberté, elle est définie par un cadre légal. Ce cadre légal, qui est inspiré du Code civil, qui est une invention française qui a fait le tour du monde, le Code civil, il n'est pas question que ça ne s'applique pas au business qui est réalisé sur le territoire national. Donc, cette entourloupe qui consiste à aller baser quelque chose à l'étranger pour négocier sous droit ce que vous voulez, c'est une évasion juridique et ça n'est pas acceptable.
En cas de litige qui pourrait se multiplier entre industriels et distributeurs qui négocient via leur centrale d'achat à l'étranger, les juridictions françaises seront bien compétentes. La Cour d'appel de Paris vient de le réaffirmer. Plus volontariste que les instances européennes, le rapport transpartisan publié aujourd'hui déplore d'ailleurs que la Commission européenne ne trouve rien à redire aux alliances de distributeurs pour contrer la position dominante de certains grands groupes industriels.
Explication Fabien Cazot.
À 19h11, Hélène, la France reconnaît des carences collectives sur les adoptions internationales.
Les filières illicites qui ont prospéré pendant des dizaines d'années, des enfants adoptés qui n'étaient pas forcément orphelins. Il y a 20 ans, ils étaient plus de 4000, seulement 176 enfants adoptés à l'étranger l'année dernière, parce que désormais il y a des contrôles, le secteur est mieux encadré. Mais que répondre à tous ceux qui aujourd'hui cherchent leur origine? Le rapport du ministère des Affaires étrangères publié ce soir était très attendu par les enfants adoptés. Bonsoir Sophie Bécherel.
Bonsoir.
Eh bien, ils jugent que le rendez-vous est manqué.
Oui, grosse déception. En effet, à la sortie de ce rendez-vous ce soir, les associations représentant les enfants adoptés, les adoptés eux-mêmes, parlent d'une occasion manquée. Certes, des discours ont été prononcés par la ministre de la Famille et des représentants des Affaires étrangères, mais il n'y a pas eu d'échange possible. Ce qui laisse Yves Denécher, historien de l'Université d'Angers, qui a beaucoup documenté le dossier des adoptions, amer.
On a entendu de la part des deux ministres une reconnaissance de carence collective, une reconnaissance de manquement, qui est une expression vraiment très minimale de la reconnaissance qui pouvait être attendue.
Pour Marie-Mar, adoptée au Mali il y a 35 ans, la rencontre n'était pas à la hauteur.
On avait l'impression vraiment qu'on parlait de nous devant nous, mais il n'y a pas eu vraiment d'échange avec les personnes adoptées, les victimes qui étaient là. Et c'est vraiment très, très décevant. On attendait des excuses en intimité avec les représentants de l'État parce que c'est un début de réparation d'avoir des excuses. Parce qu'on parle quand même de traite d'êtres humains, de trafic, hein, d'enfants volés à la maternité, de parents biologiques dupés.
Le rapport, qui n'a pas été remis aux personnes présentes, reconnaît en effet que les manquements, les pratiques illicites ont prospéré. L'État n'a pas protégé ses enfants et cela a eu des conséquences jusqu'à leur vie d'adulte, est-il écrit. Sur les 28 recommandations faites, plusieurs évoquent la nécessité de les accompagner désormais dans la recherche de leurs origines. Un guichet unique est évoqué pour la recherche d'archives, un soutien administratif au pays d'origine. Une réflexion est proposée sur le recours aux empreintes génétiques. Autant de pistes qu'il va à présent falloir creuser.
Sophie Bécherel, la France pourrait-elle bientôt revoir la définition du viol? Emmanuel Macron est en tout cas favorable à y ajouter la notion d'absence de consentement. Le chef de l'État l'a dit en marge de la cérémonie du 8 mars dernier à l'association Choisir la cause des femmes. Plusieurs pays l'ont déjà fait, comme la Suède ou l'Espagne. En 2022, la loi surnommée Seul un oui est un oui. Bonsoir Sarah Guibaudot.
Bonsoir.
Mais jusqu'ici, il semblait y avoir une certaine réserve en France.
Oui, et la co-rapporteure de la mission d'information parlementaire a senti l'évolution de certains interlocuteurs depuis décembre. Marie-Charlotte Garin, députée écologiste, se félicite de l'impulsion donnée par le président. Pour elle, la définition actuelle, toute pénétration ou acte bucco-génital commis par violence, contrainte, menace ou surprise, ne permet pas de prendre en compte les cas de sidération, par exemple.
Vous ne pouvez pas réagir parce que vous êtes simplement sidéré par ce qui vous arrive. Et dans ces cas-là, il est très difficile donc de se débattre, de dire non. Et venir introduire le consentement dans la loi, ça vient notamment répondre à ces cas-là et donner un outil de plus au juge.
Au ministère de la Justice, on nous explique que si la France s'est opposée à la directive européenne qui proposait une définition commune avec la notion de consentement, c'était plutôt pour une question de souveraineté, mais que sur le fond, Éric Dupond-Moretti est ouvert à la réflexion. Du côté des professionnels, il reste des oppositions, comme au Conseil de l'Ordre du Barreau de Paris. Écoutez l'avocate Élise Arfi.
S'il y a des classements sans suite et s'il y a des non-lieux dans des dossiers de viol, c'est pour des problèmes de preuve. Ça n'est pas un problème de définition légale de la loi. Par ailleurs, on va chercher maintenant le ressenti de la victime. Comment voulez-vous qu'une personne puisse se défendre d'un ressenti, un sentiment subjectif chez une victime ?
Les députés rendront leur conclusion mi-avril, à la clé une proposition de loi. Le ministère de la Justice se dit attentif à la sécurité juridique du texte.
Sarah Guibaudot, ils avaient fait annuler un concert électro dans l'église de Carnac, dans le Morbihan, en mai dernier. Des militants de Civitas, l'organisation catholique intégriste d'extrême droite depuis 10 août, ils criaient à la profanation et ce n'était pas leur première action en Bretagne. Deux d'entre eux étaient jugés aujourd'hui à Lorient. Jean-Philippe Degnaud a suivi l'audience.
Droit à la barre, Nicolas et Caroline revendiquent leur action non violente, précise-t-il, pour empêcher la profanation d'un lieu de culte. Mais les autorités civiles et religieuses avaient donné leur accord, relève la présidente. Justement, on était au pied du mur en tant que catholique, répond le jeune homme, ancien responsable local de Civitas. Donc, c'est uniquement parce que ce n'est pas votre opinion, résume la présidente. Ce n'est pas une question d'opinion, c'est mon avis, bafouille le prévenu. Caroline, elle, reconnaît avoir empêché plusieurs femmes du public de rentrer dans la chapelle. Il y en avait une toute en noir et une autre avec un pantalon vert, une autre avec une croix inversée, les signes de Satan, justifie-t-elle. Mais l'église ne vous appartient pas, tente la présidente. Il y avait d'ailleurs certainement des catholiques dans le public. C'est parce qu'ils ne comprennent pas le problème. Donc demain, vous pourriez recommencer. On est là pour défendre notre religion, maintient Nicolas. La procureure réclame un avertissement sérieux pour Nicolas, 5 mois de prison avec sursis et un stage de citoyenneté pour qu'il aille confronter ses opinions avec d'autres. Et 500 euros d'amende pour Caroline.
Jugement mis en délibéré au 25 mars. La chaîne C8 mérite-t-elle sa fréquence TNT ? C'est l'une des questions à laquelle veut répondre la commission d'enquête ouverte fin février à l'initiative des députés de la France Insoumise. Et aujourd'hui, c'est le milliardaire Vincent Bolloré, actionnaire majoritaire du groupe Vivendi, qui possède la chaîne C8, mais aussi Canal+, ou encore CNews, qui était entendu. Bonsoir Alexandra Hacoun.
Bonsoir.
Est-ce que les parlementaires voulaient savoir, c'est si derrière cet empire médiatique, il y avait un projet politique?
Elle est même venue dès le début, en fait, cette question, de la part du président de la commission, Quentin Bataillon, pour une réponse sans équivoque de Vincent Bolloré.
J'ai des convictions, hein, mais les contenus du groupe Canal n'ont qu'un objectif, c'est de servir ses abonnés ou ses téléspectateurs.
Il a ensuite enchaîné sur CNews.
Pourquoi est-ce que CNews est un succès ? Parce que CNews raconte la vérité, reçoit tout le monde, enfin en tout cas tous ceux qui veulent y aller, et que c'est aujourd'hui un espace de liberté. Alors est-ce qu'il y a de l'idéologie là-dedans ou chez Cyril Hanouna ? Je ne suis pas sûr.
Pas d'idéologie vraiment, pas même au travers d'une émission comme Enquête d'esprit, où l'IVG a été présentée comme première cause de mortalité dans le monde. Plusieurs députés l'ont interrogé à ce sujet, pour savoir aussi si cette émission était son idée. Ça n'est pas de ma volonté, a sobrement répondu le patron de Vivendi, qui s'est ensuite lancé concernant l'IVG dans une étrange diatribe.
Se heurte dans cette affaire deux libertés, la liberté des gens de disposer d'eux-mêmes et la liberté des enfants à vivre. Et je vais vous faire une confidence. Il y a pas mal d'années, la femme avec qui j'étais a appris qu'elle était enceinte alors qu'elle prenait des médicaments qu'il fallait pas prendre. J'avais déjà 4 enfants, j'étais faible, j'ai pas fait attention, j'ai laissé faire. Je peux vous dire qu'il n'y a pas un jour où je ne pense pas à cette vie.
Là, le président de la commission l'a un peu recadré, que ça n'était pas le sujet du débat. En tout cas, si CNews ou une autre chaîne du groupe Canal+, devait se voir retirer son autorisation d'émettre, on s'adaptera, a répété plusieurs fois Vincent Bolloré, avant d'ajouter un peu menaçant, mais ce serait pris comme une gifle et ça poserait un problème.
Cyril Hanouna sera entendu demain 14h par cette commission. 800 000 billets vendus en quelques heures à la SNCF, les trains pour cet été. La petite surprise, c'est que les trains au départ ou à l'arrivée des gares de Paris, Gare de Lyon, Paris-Bercy et Austerlitz ne sont pas encore disponibles pour le 26 juillet, tant qu'on ne connaît pas en cours précisément le contour de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Et puis, il y a quoi sur la table d'apéro idéal ? Je dirais du fromage. Ouais, une sauce à l'ail peut-être. En tout cas, visiblement, il y a des règles en la matière. On est à la grande finale du championnat de France de planche apéro. Ça se passe au salon Sandwich and Snack Show à Paris. Il y a des règles, mais en fait, chacun a les siennes. C'est le reportage de Salomé Pineda.
La question qui a le plus divisé cet après-midi, c'est l'équilibre entre fromage et charcuterie. Pour savoir comment faire chavirer le cœur des jurys, on leur a posé la question directement.
Une bonne charcuterie d'une très bonne qualité.
Il faut qu'il y ait une harmonie de couleurs, une harmonie de matière et des fleurs. Simon, qui participe au concours pour la première fois, sent l'adrénaline monter.
Oui, c'est le bon stress qui commence. Je suis de Bordeaux, on est Mazet de Bordeaux, du coup on travaille entre le bassin d'Arcachon et Bordeaux.
Pour épater les 6 membres du jury venus de tout horizon, il faut du goût bien sûr, mais surtout...
On dit tout
toujours une planche, on la mange avec les yeux.
Alexandre est le directeur de la charcuterie Rovagnati à l'initiative du concours.
Vous l'avez fait waouh, vous la posez devant vous, faites waouh.
Trois épreuves d'une vingtaine de minutes chacune et chronométrées. Mais ici, pas de cadeau. David Kolski, l'un des jurys, se montre tranchant.
Il y a des consommateurs et c'est bien de rappeler certaines règles. On ne peut pas présenter des asperges qui ne sont pas épluchées quand ce n'est pas la saison.
Après 3 heures de course, c'est finalement Simon de Bordeaux qui remporte le trophée.
Je suis vraiment trop content. C'est super. Ça fait 4 ans qu'on fait ce métier et maintenant qu'on a ça, bah, c'est un plus énorme.
Alors son chèque de 1000 euros, il sait déjà comment il va le dépenser.
Peut-être partir en vacances, on verra.
Bravo à Simon de Bordeaux pour sa planche l'apéro.
Voilà, j'ai vu que des fois on mettait des fleurs, mais du coup je ne sais pas si c'est des fleurs qui se mangent
ou non.
Qui ne se mangent pas. C'est une vraie question. Merci beaucoup, Hélène Philippe. Vous reviendrez demain pour nous le dire.